Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés dans cette ambiance estivale torride, d'avoir pris la peine de venir pour assister donc à la présentation des résultats semestriels du groupe Lizy, des comptes au 30 juin 2018. Les comptes au 30 juin 2018, c'est toujours un exercice pas très simple, puisque en fait on n'a que 6 mois d'exercice, on est quand même dans une activité où on a une certaine saisonnalité. On a des impacts sur certains postes de coûts, certains postes d'activité. Donc il faut relativiser et se garder de toute interprétation, de tout effet de tendance sur ces résultats. Donc classiquement, nous allons vous présenter les points importants de ce semestre, vous présenter une analyse comme d'habitude par division. Raphaël vous présentera ensuite une analyse un peu plus détaillée des comptes sur la partie comptable et consolidée, pour ensuite aborder le chapitre qui vous intéresse naturellement sur la partie perspective et stratégie. Alors, ce qu'il faut retenir de ce semestre en termes d'activité, tout d'abord, c'est une base de comparaison extrêmement défavorable. Puisque l'an dernier, nous avions eu un semestre flamboyant, avec des livraisons très significatives sur ce qu'on appelle la phase d'initial provisioning, sur des nouveaux programmes importants. Nous avons connu également un niveau du dollar extrêmement favorable, qui a augmenté d'autant la valeur de nos ventes et donc de nos résultats. Alors, nous avons un deuxième trimestre de la période, puisque le premier trimestre, nous avons communiqué dessus, hein, qui est bien dans la tendance, qui est un peu plus favorable. On a bénéficié d'un redressement du dollar sur la fin de période, mais la fin de période uniquement. L'effet dollar, il reste très significatif sur le semestre. De 28,9 millions, c'est le petit graphique que vous avez en bas à droite. Cet effet dollar nous a pénalisé à la fois sur notre activité localisée aux États-Unis, mais également sur toutes nos activités aéronautiques basées en Europe et facturées en dollars. Sur l'effet le plus significatif de la période, qui est ce ralentissement brutal annoncé et sur lequel nous avions communiqué dès le premier trimestre, hein, qui est la baisse significative dans l'activité Fasteners Europe. Il y a trois éléments qu'il faut retenir. Tout d'abord, nous avons en effectif la baisse des programmes wide body 380, 330. Même on peut y mettre la 400M là-dedans, à titre plus marginal, mais néanmoins ça pèse. Tous ces éléments cumulés ont permis de couper les commandes et les livraisons de la part de nos clients, et donc pour nous une baisse forte d'activité de chiffre d'affaires. Deuxième point qui se cumule, qui est l'ajustement de production lié à la disponibilité moteur. Vous avez vu qu'il y a eu un redressement assez net des livraisons des grands avionneurs sur la fin de période, mais vraiment sur la toute fin de période. Et c'était plutôt sur un effet de diminution des encours que sur un effet de pure consommation de nos produits. Et donc là, vous avez également un deuxième effet qui se cumule pour nous, puisque l'ajustement de production a connu et nous a touchés, nous, en termes de livraison à nos clients. Et puis enfin, le troisième effet, qui est l'effet stock que je vous citais tout à l'heure, initial provisioning, qui avait eu lieu sur le premier semestre 2017, ne se reproduit plus ici. Cet élément-là est également tout à fait notable. Voilà, c'est une interprétation, aujourd'hui une analyse, et il convient de confirmer tout ça pour la suite. C'est le propre du groupe Lizy que d'avoir des éléments contracycliques pour pouvoir contrebalancer des activités saisonnières, où on a un cycle prononcé, des cycles courts. C'est donc la partie automobile qui a très bien fonctionné sur la période, qui a des perspectives aussi tout à fait encourageantes et donc qui permet de compenser une partie de la baisse de l'aéronautique en Europe. 6 chiffres à retenir. Chiffre d'affaires de 835 millions, une croissance organique de moins 3,5, donc en amélioration par rapport au T1. Un résultat opérationnel courant de 68 qui se compare à 98 sur l'exercice précédent. Une marge opérationnelle de 8,1 qui se compare à un très haut niveau du S1 2017 à 11,3. Un free cash flow 35, très bon niveau, puisqu'il est en augmentation par rapport à l'exercice précédent, comme annoncé. Et puis, des investissements toujours élevés, à 66 millions. On va revenir sur chacun de ces éléments-là, bien entendu. Mais voilà, vous avez donc un tassement de la marge, mais par contre la confirmation d'un free cash flow, qui est un vrai free cash flow. C'est pas, on cache pas la poussière sous la moquette, comme diraient d'autres. C'est la confirmation de la capacité du groupe à pouvoir gérer sur ces deux éléments et d'arbitrer en fonction des circonstances de l'activité. Alors, quand on regarde une analyse un peu plus précise du chiffre d'affaires, vous avez un petit effet périmètre qui est lié à la sortie du Précimétal l'an dernier, on l'a sorti en février 2017, donc on ne retrouve pas dans la base de comparaison cette année. Et vous avez d'autre part l'entrée de Thermax, une entrée en fanfare, un impact positif de plus 36 millions. La société qui était acquise en novembre, qui est entrée dans le périmètre le 1er novembre 2017, bien entendu, joue à plein, ce qui fait que l'impact périmètre est de plus 35 millions, plus 34,6 pour être exact. Dans l'autre sens, vous avez l'effet de change, 28,9 millions d'euros, excusez-moi. Et le solde qui est la décroissance organique pour 32,3 millions d'euros que vous pouvez attribuer en totalité à l'activité Fasteners Europe. Vous avez en annexe, bien entendu, le détail par activité. En croissance organique, quand on regarde ce qui s'est passé, donc la décroissance de l'activité Fasteners Europe se monte à moins 45 millions. Vous avez dans deux segments dans l'activité automobile qui sont très dynamiques, la partie clipée qui rapporte plus 6,3 millions et la partie composants mécaniques de sécurité qui rapporte 8 millions. Et puis vous avez chez Medical un ajustement conjoncturel, je parle bien là de conjoncturel, après on va dire, sortie de l'activité Remélé de deux pièces significatives, et où on a beaucoup de sujets qui sont en développement et qui vont progressivement soutenir l'activité. Mais l'effet dollar seul sur Remélé pèse pour la moitié, et puis vous avez 10 millions de dollars de baisse de pure activité et périmètre constant. Quand on regarde une analyse en grande masse de la rentabilité, vous avez un effet volume, qui pèse dans la partie aéronautique et médicale, et que la partie automobile compense, mais pour partie. Donc l'ajustement automobile qui aurait pu être plus significatif est insuffisant. Néanmoins, il apporte un élément de soutien qui contribue à hauteur de plus 5,3 millions d'euros. Le recul est amplifié par l'effet dollar qui touche le résultat courant à hauteur de moins 3,6. Millions d'euros. Donc ces effets cumulés, à ce que vous appelez assez communément les headwinds, ont touché toutes les divisions et vous rajoutez une explication où l'automobile aurait dû être plus contributif qui est l'effet matière première. On va revenir dans l'explication plus en détail lorsqu'on abordera les résultats par division. Une satisfaction du semestre, le free cash flow, en progression de 7 millions d'euros. On a un bon niveau d'EBITDA et donc de CAF, à 11,2% de CAF, pour nous c'est un bon niveau. On a un effet de change qui est cette fois-ci positif, puisque lorsqu'on revalorise les actifs court terme, en particulier les liquidités en dollars ou dollars de clôture, eh bien nous avons un effet positif. On va revenir sur ces effets de change tout à l'heure. Dans les investissements à niveau élevé qui est surtout dédié au développement des nouveaux produits, on a ouvert quand même quelques nouvelles plateformes qui nous donnent de la capacité future d'expansion, mais surtout de vente de produits nouveaux. Nous avons mentionné la nouvelle usine de Pologne, qui nous permet d'être mieux organisé en dispositif de finition des aubes de compresseurs et principalement des aubes pour le dip. Donc un programme de montée en puissance très significatif qui aujourd'hui génère des surcoûts. Cette usine est aujourd'hui presque pleinement opérationnelle. Elle a été inaugurée, on peut le dire, Jean-Louis, tout début juillet. Donc vous voyez vraiment, on n'a pas d'impact sur le semestre, sauf les perturbations du déménagement. Je mentionne également le Mexique avec une usine Monterrey qui est dédiée aux deux BG stratégiques de l'automobile, la partie clipée comme la partie composant mécanique de sécurité. Une usine qui donne toute satisfaction et qui est équilibrée dès le démarrage. Donc vous voyez, c'est un bon sujet et c'est tout à fait sous contrôle. Partenaire pour les bras et les OGV du LIP. Une usine stratégique sur des produits stratégiques. Là, on est dans le domaine de la finition sur la partie ébauche fournie par Bologne. Et également, on a également ce qu'on appelle du taillé masse. Donc, on part d'un brut et on vient terminer l'aube complètement avec les nouveaux moyens de production. C'est une usine qui est sous contrôle et on a décidé une extension supplémentaire, donc une troisième tranche. Et depuis l'acquisition, on aura triplé la taille de cette usine. Donc une très belle usine avec une belle techno installée. Et également deux autres sujets, plus par nature, on reviendra dans les perspectives, sur la partie robotisation et la partie digitale. Et puis on note également une hausse des BFR, particulièrement des stocks, où nous augmentons les stocks de 21 millions. On a eu une forte augmentation dans la partie automobile pour servir la forte demande de l'été. On est également en augmentation dans la partie aéronautique. Ça peut paraître surprenant malgré la baisse, mais il faut savoir que dans la partie aéronautique, lorsque vous avez un ajustement brutal de la demande, donc c'est déjà compliqué de diminuer les stocks dans la partie fasteners. Mais en plus de ça, on augmente du fait de l'augmentation des programmes dans la partie composants de structure. Et donc on a constitué des stocks pour pouvoir faire face au ramp-up, particulièrement sur le programme LIP. Et donc nous augmentons les stocks à Marmande. Les stocks en augmentation également appartenaient. Donc voilà, tout ça n'aide pas à l'ajustement des stocks, mais dans la deuxième partie de l'année, nous prévoyons d'ajuster ces stocks sur la partie saisonnière. Dans la partie médicale, on a également augmenté les stocks pour fournir le contrat Stryker dans des meilleures conditions. Je reviens ensuite sur quelques éléments un peu marquants avec ce qui s'est passé sur le premier semestre. Nous avons maintenant la nouvelle usine de Pékin pleinement opérationnelle. Je vous rappelle que nous étions proches de l'aéroport de Pékin. On a déménagé, on est passé de l'autre côté de la ville. Il a fallu recruter à peu près 100% des opérateurs techniciens et cadres. Donc cette usine est maintenant pleinement opérationnelle et nous offre une capacité d'expansion significative. Je vous ai parlé de Monterrey, je vais te parler de Partenay. J'ai également parlé de la Pologne. Nous avons des énormes travaux dans l'usine de Dell, dans la partie automobile, qu'on appelle le projet Dell du futur. Ces travaux nous permettront d'inaugurer une nouvelle phase à partir de fin octobre à peu près. Donc là, on aura moins de perturbations dans ce site important de la partie automobile. Et puis, le projet Forge 2020, que nous avons décidé de décaler pour revoir à la fois l'enveloppe et le contenu technique, et pour être beaucoup plus conforme à la cible de coût sur l'ensemble du projet. Donc nous n'avons absolument pas remis en cause ce projet, puisqu'on l'a confirmé vigoureusement, mais nous l'avons seulement décalé, et on souhaite revoir ce projet, peut-être avec un partenaire promoteur différent. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie présentation générale. On va maintenant rentrer dans l'analyse par division, un peu plus en détail et de manière un peu plus précise. Sur la partie activité, il faut retenir que vous avez donc deux activités totalement distinctes avec des cycles d'activité différents entre la partie fixation et la partie composante. L'explication que je vous ai fournie tout à l'heure, faiblesse du dollar, ajustement de la production chez nos clients qui escomptaient un ramp-up significatif et qui ont dû revoir une partie de ces perspectives extrêmement dynamiques d'une manière un peu plus prudente, la partie ajustement de stock, tous ces éléments-là ne touchent que la partie fixation et Europe en particulier. On a ce sujet d'ajustement qui nous touche significativement. Et aujourd'hui, ce qu'on a dit de manière factuelle, c'est qu'on n'a pas d'éléments qui indiquent un retour à un niveau d'activité qu'on a pu connaître sur l'exercice 2016 ou 2017 dans l'horizon de visibilité. Voilà. Il convient d'être tout à fait prudent et on vous dit des choses telles qu'elles sont. Donc on n'a aucun redressement de commande chez notre principal client européen sur la demande de fixation. Par contre, nous notons, après 2 ans de faible activité aux États-Unis, un affermissement de la demande aux US, qu'on ne voit pas vraiment puisque c'est camouflé par un effet dollar qui est significatif, hein, qui nous fait baisser quasiment de 10%. Donc aujourd'hui, aux US, nous attendons non pas un ramp-up extrêmement raide, mais une reprise progressive qu'on espère solide. Et troisième business group, qui est l'activité composant de structure, qui fait plus que 350 millions, hein, pas loin de 400 millions, qui, elle, est toujours en progression. Et c'est une progression qu'il faut analyser un peu plus en détail, puisqu'on est à la fois touché par l'aérostructure, qui est plutôt stable, voire en légère baisse, et l'activité moteur, qui, elle, est plutôt très dynamique. Donc, il y a une analyse fine à faire. Nous notons également une légère reprise dans tous les segments un petit peu annexes, mais néanmoins qui en cumul représentent un certain volume, que sont les segments hélicoptères, défense, avions d'affaires, avions régionaux. La distribution US, en termes de prise de commande, on est à plus de 10% en dollars. Voilà. Donc un contexte de marché qui est très contrasté, pas facile à expliquer, qu'on voit dans la durée, bien entendu, ça s'inscrit dans un marché aéronautique que vous connaissez. Donc je ne vais pas vous refaire un dessin sur les perspectives de croissance, les commandes, etc., etc. Mais globalement, quand on regarde un peu plus en détail et plus en finesse, on a des variations qui sont très contrastées et qui nous affectent sur notre segment donc fixation Europe. Au niveau des opérations, nous avons pris les premières mesures d'ajustement. Nous avons baissé les effectifs en équivalent temps plein de 311 personnes par rapport au pic de juin 2017. C'est pas rien. C'est l'équivalent d'une usine moyenne du groupe. Cet ajustement touche particulièrement l'usine de Saint-Ouen, l'usine de Rugby, Villefranche également, la petite usine qu'on a dans le centre de la France à Vignoux. Mais en cumul, c'est quand même significatif. Et nous allons poursuivre cet ajustement. Nous constatons également des gains de productivité aux États-Unis, où nous avons amélioré la contribution provenant de cette zone géographique dans une activité en dollars qui est en légère baisse. Nous avons un rythme d'embauche dans d'autres usines. Ah oui, c'est pas simple, hein, qui se poursuit à Marmande. Nous avons embauché 29 personnes sur la période, en Pologne, 32 personnes, pour faire face au surcroît d'activité, à des besoins court terme, nous avons privilégié le service client, de sorte de pouvoir servir au mieux Safran en particulier, pour ses besoins de croissance du LIP. Vous savez que c'est un moteur qui respecte déjà ses engagements de livraison, mais qui va même au-delà, et donc nous avons des demandes tout à fait significatives de livrer plus de pièces, ce que nous réalisons aujourd'hui au prix d'exploit, puisque sur un nouveau programme monté aussi vite en puissance, c'est quand même compliqué. Et je vous rappelle que ce programme LIP, il se veut en 18 mois atteindre quasiment les cadences du CFM56 qu'on a mis 15 ans à faire monter. Donc vous voyez qu'il y a un vrai défi industriel derrière. On note quand même encore des perturbations sur la ligne de produits Aube, hein, donc les Aubes de compresseurs forgés à Marmande et finis en Pologne, les nouvelles formes développées pour le LIP sont assez compliquées à obtenir par nos technologies. Néanmoins, on y arrive. Et enfin, on note de nombreux produits en développement, dont la visibilité en termes de chiffre d'affaires commencera à produire ses effets uniquement en 2019. Néanmoins, on a quand même les coûts sur 2018, et ce n'est pas le genre de la maison de les activer. En termes de grands chiffres, juste ce qu'il faut retenir, c'est que la contribution de l'aéronautique est de 41,4 millions d'euros, en forte baisse par rapport à l'exercice précédent. On était sur un grand pic de contribution. Mais par contre, en termes de free cash flow, on a réussi à bien équilibrer les choses et à contribuer à hauteur de 19,2 millions d'euros. Et ce, malgré une hausse des stocks, qui était une hausse subie dans la partie fasteners, mais voulue dans la partie composants, et un effet impôt favorable. Alors, là où on voit vraiment ce qui s'est passé, c'est sur ce graphique, donc le waterfall qui rationalise le résultat opérationnel courant de 74 millions d'euros l'an dernier. Vous voyez l'effet, la masse de l'effet volume sur la partie fasteners qui nous touche de plein fouet, mais également, il y a une partie dollar dans cette baisse, qui pèse pour 31,1 millions d'euros au total. Nous avons 33,6 millions d'euros d'effet de change. Ça, c'est purement sur le résultat d'exploitation courant et net des produits de couverture. Heureusement qu'on en avait, mais vous voyez qu'il est quand même important. Et derrière, ce qui est dommage, c'est qu'on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé. Les investissements payent, notre organisation également du Lean. Et on a pu faire des progrès à hauteur de 5,9 millions d'euros, auxquels vous pouvez également rajouter la baisse des coûts fixes pour 3,2 et d'autres effets annexes. Donc en cumulé, ça a quand même été des efforts importants. Bien entendu, nous avons toujours des surcoûts qu'on considère comme étant non courants, liés à l'industrialisation des eaux principalement, pour 2,7 millions d'euros, et un effet inflationniste, dont la partie salaire qui pèse quasiment pour 4,9 millions d'euros, et la hausse des amortissements pour 2,2. Donc voilà comment on explique la baisse, et vous voyez qu'on impute cette baisse quasiment en intégralité à cet effet volume qui nous touche de plein fouet et qui correspond, si vous voulez, à la structure de coûts fixes dans la partie aéronautique où nous avons une base de coûts fixes très élevée. Nous passons maintenant à l'univers automobile. Un point notable qui est la forte activité, une croissance de 21%. C'est quand même beau, il faut le retenir. Bon, en croissance purement organique, on est à plus 6,8. Pour l'activité automobile, c'est également un bon score. Vous voyez qu'on est au-dessus du marché. On note également une accélération sur le trimestre à plus 8,2. Donc, ça veut dire que globalement, nous prenons des parts de marché, et ce, sur nos segments stratégiques de développement. Donc les objectifs sont cochés les uns après les autres. Nous avons un point notable sur le semestre, c'est la première fois dans l'histoire du groupe où le chiffre d'affaires des équipementiers est supérieur au chiffre d'affaires réalisé avec les constructeurs. Donc c'est un point structurel, significatif et qui correspond bien également à notre stratégie. On peut noter également des performances chez les constructeurs tout à fait dynamiques chez PSA, c'est des croissances de plus de 10%, chez également Daimler et Volkswagen, pardon. Où là nous avons connu également des taux de croissance tout à fait dynamiques. Ça veut dire également que la croissance des équipementiers a été encore plus dynamique, puisque globalement on croit chez les constructeurs, mais on croit encore beaucoup plus vite chez les équipementiers. Et un petit mot sur Thermax, qui est une belle acquisition. Nous avons aujourd'hui une intégration progressive, on a les deux fondateurs qui restent minoritaires et qui continuent la gestion, qui sont motivés pour nous laisser une activité florissante. Donc on a une très très forte prise de commande. On a le démarrage des activités croisées et les contributions synergétiques à la croissance du chiffre d'affaires, et ce qui nous permet d'afficher des très bons scores. On note les premières prises de commande de produits LICI vendus par Thermax à hauteur de 650 000 euros. On a plus de 3 millions d'euros en cours de négociation, et on va trouver également des synergies dans l'autre sens, où nous commençons à vendre les équipes de l'ICI Automotive en Europe des produits Thermax, donc qui vont générer l'activité. C'est exactement ce qu'on cherchait. On aime bien les synergies positives, les complémentarités, les achats de parts de marché qui permettent de conforter nos positions et de vendre nos lignes de produits dans d'autres zones ou chez de nouveaux clients. En termes d'opération, on a un élément pénalisant sur le semestre qui est la hausse des matières premières. Nous avons toujours et traditionnellement dans la partie automotive et en particulier avec les constructeurs un délai de négociation, un temps de latence, une inertie, vous l'appelez comme vous voulez. entre le moment où on subit les hausses de la part de nos grands fournisseurs et on arrive à les faire passer chez nos grands clients. On a un peu pris dans les taux, mais on y arrive. Donc, cette hausse touche en particulier les aciers. Elle pèse pour 3,1 millions d'euros sur la marge du semestre. Je vous ai parlé de la montée en production du Mexique. On parle également de la Chine. Notre objectif, c'est bien de vendre nos produits sur les plateformes de marché les plus significatives. Vous avez le marché européen, qui en est très présent, le marché chinois et le marché nord-américain. Sur ces trois marchés, vous couvrez 80% du marché mondial. Et notre objectif a été d'être présent progressivement sur ces plateformes, d'augmenter notre présence en fonction des besoins des clients. On a des pièces qui voyagent plutôt bien, mais par contre, à terme et à partir du moment où on atteint un certain volume, il faut qu'on soit présent localement. Et aujourd'hui, nous offrons à nos grands clients, particulièrement les équipementiers, des plateformes de production crédibles qui fonctionnent sur les trois continents. Nous avons également subi des surcoûts logistiques et le lancement de nouveaux produits qu'on retrouve dans les transports et également une certaine baisse de productivité. Et également, nous avons lancé un projet d'extension, 30% de capacité d'extension sur une très belle usine que nous avons en République tchèque qui fonctionne très bien. Alors, dans les grands agrégats, ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on atteint, on confirme, vous l'appelez comme vous voulez, un bon niveau de marge à 7,2%. Nous avons également un contexte d'investissement élevé, des lancements de nouveaux produits et nous dégageons un free cash flow positif qui est conforme à l'objectif. Et ce, malgré la forte hausse des stocks et une augmentation significative des comptes clients compte tenu d'augmentation d'activité. Donc, encore une fois, on coche les objectifs et on confirme une fois de plus notre objectif de marge qui était ambitieuse. Aujourd'hui, on est sur une étape de confirmation. Nous souhaitons relever notre niveau d'ambition et d'aller toujours plus loin. Donc, un autre waterfall. Vous avez un effet volume, mais cet effet volume est mangé, si je puis dire, par l'effet matière, en grande partie. Il aurait dû être plus significatif. Nous n'avons pas suffisamment de productivité industrielle compte tenu des effets surchauffe que je vous ai mentionné tout à l'heure, et également des coûts de lancement de nouveaux produits. Vous avez même un dérapage des coûts de transport, des coûts de sous-traitance. On a connu quelques sujets de traitement thermique qui nous a coûté 2,6 millions d'euros sur la période, même un peu plus parce qu'on aurait dû faire des progrès. Et puis nous avons également un effet inflationniste qui pèse pour 1,7 million d'euros. Et la hausse des amortissements, bien entendu. Et puis vous voyez la contribution de Thermax, très belle contribution sur le semestre, très satisfaisante, même au-delà d'un premier niveau objectif. Et donc c'est là où on dit que pour l'instant Thermax est une acquisition réussie. Changeons de contexte pour parler du médical. Nous avons bien entendu, parler déjà suffisamment de la perte de produits significatifs chez Remélé. Nous sommes dans cette unité en plein développement sur des nouveaux produits à destiner au MIS, donc le Mini Invasive Surgery, des produits assez complexes pour lesquels nous avons l'outil industriel installé, mais qui nécessitent des temps de réglage, d'homologation, de qualification, d'échantillons initiaux, de prototypage, etc. Tout ça, ça prend du temps et ça coûte cher. On passe tout, bien entendu, en PNL. Deuxième point, nous avons une bonne prise de commande dans la partie spine qui permet de garnir les usines de la partie donc usine de Lyon et l'usine de Géropa, ainsi que la deuxième usine que nous avons à Minneapolis qui s'appelle Coon Rapids. Donc une activité destinée au segment rachis qui est très dynamique, sont des grands clients comme Stryker Spine ou Zimmer. Zimmer Biomet dans la partie spine de Zimmer où ce sont deux grands leaders du secteur et donc avec des besoins significatifs et des prises de commandes qu'on vous avait déjà annoncées dans les communiqués précédents et puis un effet dollar qui pèse pour la moitié de la baisse pour 3 millions, il ne faut pas oublier dans l'analyse parce que c'est quand même significatif. Donc, d'aucuns peuvent être déçus par la top line de cette activité. J'aurais aimé de vous présenter des chiffres avec une croissance organique plus significative, mais ça se comprend. On souhaite se développer dans la durée sur des produits stratégiques. Donc, on a un effet de nettoyage du portefeuille et un effet de reconstruction. J'espère vous montrer pour la suite des chiffres positifs dans le vert qui sont dans le marché et même au-delà. Donc, nous n'avons pas rangé nos ambitions sur ce secteur médical. Nous avons juste un effet conjoncturel. Et là, je parle bien de conjoncturel. Et c'est là, je parle bien aussi de non-surinterprétation d'un résultat semestriel. En termes d'opérations, vous voyez, nous continuons à étendre les sites à Minneapolis, à Caen. On ne le fait pas en aveugle. On ne le fait pas non plus pour la beauté du geste. À Minneapolis, maintenant, on a une usine par rapport à ce qu'on a acheté qui est au niveau et au standard médical. Déjà, on l'était, c'était bien en termes de techno. Là, maintenant, c'est bien en termes de techno, c'est bien en termes d'organisation et c'est bien en termes de standard médical, en termes de 5S, de propreté et donc d'efficacité. Donc, nous avons maintenant un outil qui est magnifique pour pouvoir prendre des nouveaux produits et les clients nous font confiance. On développe donc des gros produits pour Intuitive, notamment. C'est le robot de Da Vinci, ainsi que des développements très importants pour Zimmer Biomet. Le site de Caen a été réorganisé par ligne de production. On y développe un des produits très stratégiques de Stryker, qui s'appelle la Collade 2, qui est le produit du futur, dont les rythmes de production augmentent très fortement. Nous étions avant dans une production où les lignes étaient éparpillées au sein de l'usine. On a pu maintenant tout regrouper et être beaucoup plus efficace. L'usine a été perturbée sur le premier semestre, on finit les derniers déménagements durant l'été et on aura une organisation lean, par ligne de produits, qui sera beaucoup plus efficace pour la suite. Et nous notons bien entendu les surcoûts de développement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors quand on regarde les chiffres clés, il faut noter donc un chiffre d'affaires qui descend à 64 millions d'euros, un résultat opérationnel de 3, qui est quasiment divisé par 2, et un free cash flow qui est négatif, puisqu'on a décaissé une partie des investissements, et particulièrement les investissements liés à l'extension de l'usine de Minneapolis, qui pèse pour 5 millions d'euros. Donc, par ailleurs, on a constitué des stocks, on a maintenant complètement outillé pour pouvoir fonctionner de manière normée. Quand on regarde le waterfall, on voit qu'on a des éléments qui nous tirent vers le bas, hein, comme l'effet volume. On a un effet productivité qui est négatif du fait des perturbations et des réglages et du coût de développement des nouveaux produits. Nous avons la structuration de la division qui se poursuit, ainsi que la hausse des amortissements et des provisions. Voilà, tous ces éléments-là cumulés nous tirent vers le bas. Mais vous voyez qu'on a également dans ces effets et qu'on retrouve dans l'effet volume, l'effet dollar, bien entendu. Voilà pour l'analyse des divisions. On va maintenant regarder les résultats consolidés. Je passe la parole à Raphaël qui va vous expliquer en détail ces éléments.
Merci Emmanuel. Donc sur le compte de résultats consolidés, je ne reviens pas sur la partie chiffre d'affaires qu'on vous a commenté en détail. Je m'arrêterai déjà sur la première ligne valeur ajoutée, simplement une remarque, hein, 54,2% de valeur ajoutée pour 55% l'année dernière. Donc on peut constater que malgré la baisse d'activité, on tient un ratio de valeur ajoutée qui reste de bonne tenue. Si on descend un petit peu dans la lecture du PNL, on vous a parlé d'EBITDA tout à l'heure, donc 111 millions d'euros, hein, c'est 13,3%, donc là on est en recul de 2,9 points par rapport à l'année dernière. Alors ce qu'il faut bien avoir en tête, hein, on en a déjà parlé, mais pour que ce soit bien clair, les principaux éléments qui pèsent sur l'EBITDA, donc on a parlé des charges de personnel, hein, vous voyez qu'on augmente les charges de personnel de 2,1 points par rapport à l'année dernière. Là, on est en plein dans le phénomène dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des mesures d'ajustement qui ont été prises, mais qui porteront leurs effets à partir du deuxième semestre. Et on a également un effet balancier de l'autre côté, avec des recrutements plutôt importants pour assurer la montée en cadence des nouveaux programmes sur la partie structurelle. Donc on a un double effet sur les charges de personnel. En tout cas, l'effet volume devrait s'atténuer progressivement au cours du deuxième semestre. Autre élément qui pèse sur l'EBITDA, qu'on ne voit pas forcément dans les ratios ici, on a les perturbations donc, qui sont liées au plan Aube, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça pèse pour un peu plus de 2 millions d'euros. C'est la montée en cadence, la montée en charge de notre usine en Pologne. Je vous rappelle juste qu'on a quand même réalisé un déménagement en pleine montée en cadence. Hein. Donc c'est plutôt industriellement, il n'y a pas eu de conséquences sur les livraisons. Donc ça, c'est une vraie réussite. Hein. Et le troisième élément qui pèse sur la partie EBITDA, c'est la hausse matière dont on a parlé tout à l'heure dans la partie automobile pour un peu plus de 3 millions d'euros. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble d'éléments négatifs qu'il faut bien avoir en tête sur la baisse de notre EBITDA. Si on descend encore un petit peu dans le PNL, bon, la ligne amortissement n'appelle pas de commentaires particuliers, hein, c'est un effet mécanique, on est en augmentation, mais c'est lié à l'augmentation de nos investissements de ces dernières années. Donc je ne commenterai pas plus. La ligne provision qui appelle également quelques questions de votre part. Donc on a plus 5,4 millions sur cette ligne de provision. On a l'impression qu'on est en, alors on est en hausse facialement par rapport à l'année dernière. Mais ici, il s'agit d'un ensemble de reprises de provisions qui n'apportent aucun point ou aucun euro supplémentaire sur l'EBIT, puisqu'ils viennent compenser des charges que l'on trouve un peu plus haut dans le compte de résultat. Donc là, en termes de lecture, on voit bien plus 5,4 sur cette ligne. Par contre, en effet net sur le ROC, il est de 0. Produits et charges opérationnelles non courantes, pas de commentaires particuliers en augmentation. Ça, c'est directement lié à ce qu'on vous commentait tout à l'heure, à savoir les réimplantations de sites partenaires, la Pologne, etc. Donc, pas d'éléments exceptionnels à ce niveau-là. Donc, tout ça nous amène à un résultat opérationnel de 64,4 millions d'euros, 7,7%. Donc, on recule par rapport à l'année dernière. Le dernier élément qu'il faut ajouter là-dessus, qui couvre l'ensemble des lignes du PNL, c'est effectivement la partie, Emmanuel vous en parlait tout à l'heure, la partie dollar, la baisse du taux moyen, parce que là on est sur le PNL, donc on parle bien de taux moyen. La baisse du taux moyen a un impact défavorable sur notre marge et sur nos produits. Donc on est, même si le dollar s'est raffermi sur la fin d'exercice, en dollar moyen, on a quand même une baisse. Donc ça pèse pour un peu plus de 5 millions d'euros sur notre marge opérationnelle. Si on continue à descendre sur la partie charges financières nettes, alors là, vous voyez qu'on a un swing plutôt important par rapport à l'année dernière et on a un résultat des charges financières, pardon, à plus un résultat financier de plus 6,4 millions d'euros. Là, c'est l'effet exactement inverse, hein, puisque là, on bénéficie d'une hausse du dollar de clôture. C'est-à-dire que quand on réévalue toutes nos créances court terme avec un dollar qui est plus faible, plus fort, pardon, forcément, mécaniquement, on a une hausse de nos créances, de la valeur de nos créances. Donc, c'est ce qui explique la quasi-totalité de cette hausse du résultat financier par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait le phénomène strictement inverse, à moins 10,5, donc avec l'effet dollar qui était strictement opposé à cette année. Donc, quand on prend la différence entre les deux années, on a une augmentation de un peu plus de 16 millions d'euros. Au niveau de l'IS, pas de commentaires particuliers, même si facialement on voit qu'en valeur absolue on baisse, ça c'est lié à la baisse des résultats. En tout cas, en termes de taux effectif, on est quasiment au même taux effectif qu'au mois de décembre et que l'année dernière, aux alentours de 32,5%. Si l'on corrige de tous les effets report de l'année dernière, on est sur des taux effectifs qui sont strictement identiques entre les deux années. Donc pas de commentaires particuliers sur la partie impôts. Donc, tout ça nous amène à un résultat net de 45,8 millions d'euros, 5,5%, là où il était de 6,8% l'année dernière. Dernière ligne du compte de résultat, la CAF, 94 millions d'euros, donc plutôt de bonne tenue, qui permet, on le verra dans les waterfalls suivants, de financer assez nettement le plan d'investissement qui est toujours soutenu et les augmentations de stock dont vous a parlé Emmanuel. Alors, en termes de bridge, ça reprend un peu les explications que je viens de vous donner, mais on le représente de manière différente. Donc, le tableau de passage du résultat net entre l'année dernière et cette année. Donc, résultat net, premier semestre 2017, 58,2 millions d'euros. Là, on atterrit à 45,8 millions d'euros. Donc, on a un premier effet, je ne reviens pas dessus, on vous l'a commenté, qui est directement lié à la baisse du résultat opérationnel, notamment dans la partie aéronautique. On voit qu'on a une baisse globale de 29,8 millions d'euros si on ajoute les quatre premiers pavés de ce waterfall, avec la baisse principale qui se situe sur l'aéronautique. Je ne reviens pas dessus, on vous l'a commenté. On retrouve ensuite l'augmentation et l'amélioration du résultat financier lié aux effets de change dont je vous parlais tout à l'heure. C'est le pavé à plus 16,6 millions d'euros. Et ensuite, un certain nombre d'autres effets qui se compensent avec hausse des charges non courantes. Donc là, encore une fois, on retrouve le financement de nos projets importants de réimplantation d'usines. On va retrouver 5,2 millions d'euros. Alors facialement, encore une fois, c'est un boni sur la partie impôt, mais un taux effectif qui reste stable. Et le dernier élément que vous avez tout à droite, ça c'est l'effet Thermax, ce sont les intérêts minoritaires pour moins 3,2 millions d'euros. Si on passe à l'endettement financier, alors là, comme d'habitude, on change un peu d'approche. Un plus signifie une augmentation de l'endettement financier, un moins signifie une baisse de l'endettement financier. Donc on part d'un endettement financier au 31-12-2017 d'un peu plus de 300 millions d'euros, c'était 33,4% des capitaux propres. Augmentation liée aux investissements, on en a parlé, un programme d'investissement toujours soutenu à 65,5 millions d'euros. Les hausses de stock, 22 millions d'euros, je ne reviens pas dessus, hein, c'est les préparations des fermetures d'été, plus la protection de la montée en cadence des nouveaux programmes. Donc il y a une partie qui va se résorber sur le deuxième semestre. Baisse des autres BFR, moins 3,4 millions d'euros. Et en face de ça, on a une CAF de 94 millions d'euros, donc qui permet de financer encore une fois assez largement nos investissements et nos hausses de stock. Un effet impôt, Emmanuel vous en a parlé tout à l'heure, notamment assez significatif sur la partie aéronautique. Là, ce sont des trop payés d'acompte de 2017 pour lesquels on a reçu des remboursements sur l'exercice 2018. Donc là, c'est toujours l'effet mécanique de décalage d'une année du calcul des acomptes d'impôt. Pas de commentaires particuliers. Tout ceci, pardon, nous amène à un free cash flow de 34,5 millions d'euros, donc qui reste très largement positif, comme on l'avait annoncé, tant dans les annuels qu'à notre communication du premier trimestre. En face de ça, ensuite, on a bien entendu les habituels paiements de dividendes et une incidence à de la variation de change sur nos écarts de conversion. Là aussi, c'est du classique. Donc tout ceci nous amène à un endettement financier net en baisse, hein, à 297 millions d'euros, soit 32,4% des capitaux propres. Sur la partie bilancielle, je vais aller vite, pas grand-chose à dire. On a toujours un bilan qui est plutôt qui est plutôt robuste. On voit qu'on retrouve là notre augmentation de stock, hein, donc je ne reviens pas dessus, on vous en a déjà parlé. Légère augmentation des dettes financières, ça c'est pour financer tout simplement l'activité courante. Donc pas de commentaires particuliers sur le bilan. Endettement financier, ensuite sur les principaux covenants, je ne reviens pas dessus. Ratio d'endettement, le gearing, donc endettement financier sur capitaux propres, là on est à 32,4%, en baisse de 1 point par rapport à l'année dernière, donc on continue à se désendetter. Les autres ratios, EFN sur CAF ou EFN sur EBITDA, sont encore de bonne tenue et très largement en dessous des covenants que l'on a avec nos partenaires financiers. Rentabilité des capitaux, sans surprise, vous voyez qu'on a un peu de tension sur le retour sur les capitaux employés, le ROCE, à 13%. Bon, là, on a l'impact direct, hein, de la baisse du ROC sur ce ratio. On était à 15% 31-12-2017. Je vous rappelle que l'objectif du groupe se situe entre 18 et 19%. Petit point sur la trésorerie pour vous indiquer que, comme habituellement, je dirais, on a un headroom de 351 millions d'euros qui nous permet de financer, ou en tout cas de couvrir largement l'ensemble des échéances auxquelles on doit faire face, qui sont d'un total de 281 millions d'euros si vous sommez l'ensemble des bâtons que vous trouvez sur ce graphique. Donc là aussi, situation de trésorerie et vision moyen-long terme plutôt très saine. Où c'est un peu plus compliqué, c'est la couverture du risque de change. Évidemment, vous savez qu'on a une vision moyen-long terme pour essayer de se prémunir contre les variations et la volatilité, notamment du dollar, hein. On le fait sur l'ensemble de nos devises, mais l'exposition la plus importante est sur le dollar. Même si elle a fortement diminué, comme vous pouvez en déduire la baisse d'activité sur le fasteners, hein, je vous rappelle que l'on fait sur l'activité fixation, pardon. Je vous rappelle que l'on facture notre client principal en Europe en dollars. Donc l'exposition dollar de l'ISI a augmenté fortement sur les 3 dernières années. Donc on essaye de se protéger par rapport à ces swings. Donc pour 2018, on a une exposition qui a baissé. Et là, on a couvert quasiment la totalité de l'exposition de l'année. Par contre, on voit que plus on avance dans les années, c'est la partie bleue du graphique, et plus il est compliqué de trouver des positions de dollars intéressantes compte tenu des taux que l'on a vécu sur les premiers mois, en tout cas sur la dernière année, on va dire, puisque ça a commencé à se tendre un petit peu sur le deuxième semestre. Mais en tout cas, c'est quelque chose, nos trésoriers travaillent d'arrache-pied sur le sujet, c'est une préoccupation hebdomadaire, pour ne pas dire quotidienne. Petit exemple de ce qu'on réalise effectivement sur la partie trésorerie de l'art. On a une exposition qui est forte, donc on essaye de désensibiliser notre exposition. On voit qu'on partait d'une trésorerie de l'art à 139 millions en début d'exercice, au 31-12-2017. On a réussi à réduire cette exposition de l'art ou cette trésorerie de l'art à 108 millions. On génère, c'est le premier pavé bleu, évidemment, des dollars supplémentaires, de la trésorerie de l'art qui vient de notre facturation. Ça, c'est l'activité courante, je dirais. Et on voit qu'ensuite, on a réalisé un certain nombre d'opérations. Alors, des opérations court terme ou des opérations qui sont liées au débouclement de certains de nos instruments qui nous ont permis d'effectuer des ventes qui étaient systématiquement meilleures que les taux que l'on pouvait avoir en spot. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On diminue notre trésorerie de l'art, donc l'exposition. Et en plus, en réalisant ces opérations de vente à des taux plus intéressants, on a généré du résultat. Vous voyez que on a le pavé du milieu, là on a vendu 90 millions de dollars à un taux qui était intéressant puisque ça nous a permis de dégager 2,9 millions d'euros de gains de change qui sont dans le résultat opérationnel. C'est-à-dire que le résultat opérationnel aurait été encore plus bas si on n'avait pas fait ces opérations. Donc ça c'est plutôt bien fait. Ensuite, je ne rentre pas dans le détail de ce graphique. Là, ça reprend, ça a plutôt une vertu pédagogique, je dirais. C'est pour vous expliquer les différents impacts de l'art sur nos différents ratios. On vous les a commentés au fur et à mesure de la présentation. Donc, je suis bien entendu à votre disposition pour descendre dans le détail de ce graphique-là. Je ferai ça avec plaisir si vous avez des questions. Voilà, j'en ai terminé avec la partie résultat groupe. Manuel, je vous passe la parole pour les perspectives et la stratégie.
Merci beaucoup Raphaël, tout à fait clair ces explications. Alors sur la partie perspective et stratégie, tout d'abord nous poursuivons nos projets structurants. Je vous rappelle que notre stratégie est basée sur deux piliers, l'excellence industrielle et l'innovation. Sur la partie innovation, il faut retenir des innovations produits mais également des innovations process. On vous avait fait déjà un premier point sur le plan robotisation. Vous avez ici le point d'étape, on est parfaitement dans les clous. Nous sommes aujourd'hui sur une phase, non pas d'accélération, mais toujours avec une vitesse de croisière d'installation des nouvelles capacités robotiques. C'est tout à fait dynamique et ce n'est pas parce qu'on est en baisse d'activité dans certains secteurs qu'on va ralentir. Donc nous continuons ce projet qui nous fait beaucoup gagner en termes, non pas de productivité, mais de postes pénibles, répétitifs, où on peut avoir des problèmes lié à ce caractère répétitif de qualité. Et donc, pour nous, la robotisation, c'est un facteur de progrès. Ensuite, sur le chapitre innovation, il faut retenir, donc sur le dossier OptiBlind, un retour de nos clients qui est tout à fait positif. Nous avons beaucoup de projets à l'étude qui sont menés par nos équipes techniques et industrielles, commerciales, avec tous les grands clients cibles que aujourd'hui on a pu fixer. Donc nous sommes aujourd'hui sur une pente de développement encourageante pour la suite. Vous savez que dans l'aéronautique, ce sont des projets très long terme. On a commencé le développement de ce projet-là, Jean-Louis, il y a 5 ans, 7 ans, 7 ans. Vous voyez, l'application sur avion, ce sera avec un temps de latence quasiment de 10 ans. Mais néanmoins, compte tenu de nos stratégies long terme, nous avons considéré que, même si on est dans un temps long, c'était créateur de valeur dans la durée. Donc c'est typiquement le genre de projet que le groupe Lizzie mène. Le sujet bord d'attaque, c'est pareil, c'est un projet long, mais c'est un projet là qui génère du chiffre d'affaires aujourd'hui et de la marge, et qui va continuer a augmenté sur des pentes significatives. Aujourd'hui, sur le premier semestre, on doit être en progression par rapport à la moyenne de 2017, de l'ordre de 30 à 40%, voire un peu plus. Et nous allons continuer cette pente sur le deuxième semestre, avec des progressions qui vont nous conduire donc à monter de zéro à une ligne de produits qui génère des chiffres d'affaires tout à fait significatifs. Nous poursuivons la prise de commande de nouveaux produits avec un travail approfondi sur notamment les applications des ailes, les ailes composites en particulier. Nous avons développé des produits spécifiques adaptés aux besoins des clients qui aujourd'hui trouvent leur application industrielle. Et donc tout ça, ça concerne la partie aéronautique. Dans la partie automobile, on a des nouvelles affaires. On est le champion du monde des applications dans le frein électrique. Très fort développement. Nous avons quasiment tous les clients qui viennent nous voir un par un pour dire voilà, on a un nouveau projet, on veut se développer, il faut être présent en Chine, il faut être présent aux États-Unis. Là, on peut le produire en Europe, etc., etc. Donc tous ces sujets-là, on les regarde avec aujourd'hui une infrastructure qui permet d'accueillir les nouveaux clients, les développer et les servir. Donc on a une montée en puissance tout à fait considérable, mais pour l'instant très positive dans cette partie-là. Et puis les développements de nouveaux produits dans la partie médicale dont je vous ai parlé tout à l'heure. À noter une application additive sur le programme A350, donc une application qui a été contractualisée avec notre client avionneur, un beau produit dont on est aujourd'hui dans les premières phases de pré-études. Donc on va chercher à le développer et l'industrialiser, puis ensuite ça va générer du chiffre d'affaires 2019-2020, Jean-Louis, à peu près. C'est comme ça que c'est l'échéance qu'il faut attendre pour ce nouveau produit qui est aujourd'hui affecté à l'ICI Aerospace Additive Manufacturing et qui est un succès puisque c'est partie de nos objectifs stratégiques que d'être qualifié sur avion et avec notre grand client. Et les initiatives qui se poursuivent dans la partie digitale, donc cette partie digitale qui est menée par Anne Delphine, ici présente. Un élément stratégique de développement qui touche à la fois le domaine manufacturing, mais également, on ne s'interdit pas également à toucher tous les sujets, notamment administratifs, comptables. On a mis en place un service partagé aux États-Unis qui regroupe toute la comptabilité des usines aéronautiques et qu'on a basé au Canada. On a, en termes d'économie de personnel et d'efficacité, à peu près un gain de 30%. C'est pour nous une première expérience qui fonctionne. On est en train de regarder d'une manière vigoureuse où on peut renouveler cette expérience, comment on peut le faire, qu'est-ce que ça implique en termes de structuration de système, mais qui est permis aujourd'hui par les technos de digitalisation et d'automatisation de tâches administratives. Et puis en fait, nous continuons opérationnellement notre système groupe, l'ICI, qu'on appelle le LICI système, qui regroupe nos trois programmes phares que sont d'abord le LIP, mais également complété par notre démarche HSE puis RSE et également par la partie COS, donc qui encadre toute la partie controlling. Dans cette perspective, il va falloir affronter les sujets qu'on va continuer. On a déjà commencé sur le premier semestre, on n'a pas vu encore l'impact se refléter dans le compte de résultats comme on l'aurait souhaité, mais nous allons continuer. Donc comme on confirme un environnement difficile, à la fois dans la partie fasteners, on n'a dit pas de reprise, et ce dans la durée, on va voir exactement quand est-ce que ça va se produire, et on vous l'annoncera le moment venu. Mais aujourd'hui, on vous annonce pas de reprise. Deuxième point, c'est qu'on vous annonce donc également la confirmation des hausses matières qui va se prolonger. On n'aura pas de baisse sur une partie court terme, mais on aura par contre un plateau dans les hausses. Bien entendu, l'impact de la hausse au deuxième semestre sera beaucoup moins significatif que ce que ça a été sur le premier. Le premier, je vous rappelle l'impact, moins 3,1 millions d'euros. Nous attendons un impact plus que divisé par 3. Pour la deuxième partie de l'année. On sera encore négatif, mais d'une manière beaucoup plus supportable. Donc on va pouvoir vraiment bénéficier de l'effet volume. Et puis enfin, on vous prévient également d'un risque, pour l'instant on est dans un risque qui n'est pas encore confirmé, mais qui, a priori, se dessine, qui est les premières conséquences des lois Trump sur la taxation des matières, où nous avons des familles de matières qui rejoignent les taxes à la fois import ou export, ça dépend de quel côté on se place, et dès le S2 2018, on estime l'impact annuel de ces mesures à peu près à 1 million d'euros, annuel, j'ai dit, sur une base 12 mois. Voilà, donc là aussi, il faudra qu'on confirme ce sujet-là pour la suite. Nous allons continuer à ajuster les coûts. Donc les coûts, tout d'abord variables avec la baisse que je vous ai citée tout à l'heure, mais qui nous fait perdre quand même 400 points de base de marge opérationnelle dans la partie aéro. À titre d'exemple, nous avons encore une base d'intérimaire et d'heures supplémentaires qui nous permet d'avoir une flexibilité. Pour l'ensemble du groupe, Vous avez vu dans les tableaux annexes, hein, où nous avons encore mis l'intérimaire. On continue d'ajuster progressivement au fur et à mesure. Mais on le fait intelligemment. On ne va pas pénaliser les clients, on ne le fait pas partout. On fait là où on en a besoin. Mais cet ajustement va se poursuivre et s'accélérer sur la deuxième partie de l'exercice. Deuxième levier, qui est la partie coût fixe. Là, on s'attaque sur des sujets qui sont un peu plus compliqués, puisqu'on a moins de marge de flexibilité, mais néanmoins, on va continuer à ajuster. Nous avons baissé déjà sur le premier semestre de 12 millions d'euros. On va poursuivre l'ajustement qui va également se poursuivre dans la partie masse salariale. Et nous allons également poursuivre nos programmes Restore Success qui touchent certaines usines et qui donnent des satisfactions. On l'a vu tout à l'heure dans les impacts en termes de productivité qui toujours... on va rechercher toujours l'excellence industrielle. On a des usines qui ne sont pas au niveau. Et donc là, on a ce programme Restore Success qui nous permet de remettre à niveau et d'accélérer le changement. Nous allons vers une amélioration des surcoûts d'industrialisation, donc là qui touche plus particulièrement le sujet aube, mais on va continuer également sur les bords d'attaque. Nous allons également mieux maîtriser notre gestion dans la partie automobile. Vous avez vu que ça nous a coûté sur le semestre pas loin de 3 millions d'euros. Là, on va travailler la sous-traitance, on va travailler également une disponibilité de traitement thermique avec la montée en puissance du traitement thermique de Dell. Nous avons également la Pologne qui va commencer à produire. Nous avons également la montée en puissance de nouveaux produits au Maroc. Tous ces éléments-là vont contribuer à trouver des relais de croissance, des relais d'amélioration de la marge dont on a besoin pour soutenir la baisse de la partie fasteners. Vous voyez cet effet compensation compte tenu de la taille du groupe. On n'a pas pu faire jouer pleinement cet effet de compensation sur le premier semestre. Nous souhaitons le faire jouer de manière plus significative sur la deuxième partie d'année. Ce qui nous conduit à vous donner comme guidance générale la confirmation de ce que nous avions annoncé dès le premier trimestre, donc le 25 avril, où donc là, les mots ont toute leur importance. Nous considérons un tassement sur les principaux indicateurs de gestion pour l'ensemble de l'exercice 2018. Et bien entendu, nous confirmons un free cash flow largement positif pour l'ensemble de l'année également. Je vais pas revenir sur les sujets, sur les tendances par division, parce que je vous ai abordé tout ça en détail. Tout ça étant calculé avec un effet dollar, un effet devise, moins pénalisant la deuxième partie de l'exercice que ce que nous avons connu, notamment sur le premier trimestre. Donc un dollar moyen de l'ordre de 1,18.